Elle s'appelle Yvonne Missy Woods. C'est la star de l'analyse ADN aux États-Unis. Grâce à elle, des centaines d'enquêtes criminelles ont été élucidées au Colorado, là où elle exerce depuis plus de 30 ans. Sauf que voilà, Yvonne Missy Woods est aussi une menteuse. La justice s'est rendue compte que depuis des années, elle falsifiait les résultats ADN. Les conséquences sont énormes. Des centaines de condamnations ont peut-être été prononcées à tort. De quoi s'interroger sur l'ADN? Est-il vraiment une preuve infaillible? Peut-on toujours s'y fier? Je suis Philippe Godin et vous écoutez un nouvel épisode d'Affaires Suivantes, le podcast inédit. Bonjour Manon Blanc.
Bonjour.
Vous êtes journaliste police-justice à BFMTV.com. Avec vous, on va évidemment revenir sur cette affaire totalement folle. Bonjour Patrice Reviron.
Bonjour.
Vous êtes avocat pénaliste au barreau d'Aix-en-Provence, passionné par ces questions d'ADN, expert. On va évidemment avec vous essayer de comprendre si l'ADN est vraiment cette preuve ultime dont on parle tant. Mais d'abord, Manon, revenons sur cette affaire. Que s'est-il donc passé au Colorado?
L'histoire, elle est récente, elle commence à l'automne 2023. Comme on le disait, elle se passe dans le Colorado, cet état de l'ouest des États-Unis. Au sein du Bureau des investigations, c'est un peu l'équivalent en quelque sorte de notre police judiciaire à nous. Alors le 6 novembre, du jour au lendemain, Yvonne Missy Woods démissionne soudainement. C'est une décision qui surprend beaucoup de monde au sein de ce bureau. Pourquoi ? Parce que ça fait 29 ans que cette médecin légiste travaille au Bureau des investigations. C'est même la vétérane de cette unité. Et dans le milieu, c'est une petite star. Elle a travaillé sur plusieurs affaires très médiatisées dans lesquelles l'ADN a joué un rôle très important. Mais en réalité, ça fait déjà un mois qu'elle est mise à pied, plus précisément depuis le 3 octobre. Et pour cause, une enquête a été ouverte en septembre 2023 après la découverte de nombreuses anomalies dans les analyses ADN qu'elle a réalisées.
Alors, de quoi parle-t-on quand on parle d'anomalies ?
Eh bien, selon l'enquête du Bureau des investigations qui a scruté son travail à la loupe, Yvonne Missy Woods n'a pas respecté les protocoles imposés et elle aurait même falsifié des résultats ADN, notamment en omettant certains faits. Par exemple, dans certains dossiers, elle a réalisé plusieurs tests sur un même échantillon, mais elle n'a transmis qu'un seul résultat. Et dans ce rapport, les conclusions sont claires. Ces manipulations semblent avoir été le résultat d'un comportement intentionnel de la part de Woods, écrit le Bureau des investigations. En revanche, les enquêteurs estiment que la scientifique n'a pas fabriqué de preuves ou de correspondance ADN.
Est-ce qu'on a eu une idée des données erronées ?
Alors, tous les ADN n'ont pas encore été examinés pour le moment, mais les enquêteurs ont d'ores et déjà identifié des manipulations de données dans 652 cas sur lesquels Yvonne Missy Woods a travaillé entre 2008 et 2023. Et ils doivent encore vérifier toutes les affaires dans lesquelles elle est intervenue de 1994 à 2008. Selon plusieurs médias américains, ce sont 3000 échantillons ADN qui doivent à nouveau être testés. Mais tout ça, Philippe, ça a un coût. Donc l'État du Colorado a débloqué 7 millions de dollars pour couvrir les dépenses de ces analyses et d'éventuels nouveaux procès.
Est-ce que la découverte de cette affaire remet en cause des dossiers criminels qui ont été gérés par cette femme ?
Oui, effectivement. Et d'ailleurs, c'est même la question centrale de cette affaire. Des accusés ont-ils été condamnés à tort sur la base d'ADN réalisée par cette scientifique ? Parce qu'on le disait plus tôt, Yvonne Missy Woods, elle est intervenue comme experte dans de nombreux procès criminels ces dernières années et des dossiers qui étaient basés sur l'ADN, justement. Récemment, par exemple, elle a témoigné comme témoin à charge au procès d'Alex Christopher et Wings, un homme accusé d'avoir tué au marteau un couple et sa fille en 1984. C'est elle qui a identifié l'ADN retrouvé dans le domicile de la famille comme étant celui de l'accusé. Et ce dernier, il a été condamné en 2022 à la prison à perpétuité pour ce triple meurtre.
Est-ce qu'on sait si la légiste reconnaît les faits ? Est-ce qu'elle dit ce qu'elle a fait ?
Eh bien, dans un courrier envoyé aux médias américains par son avocat, ce dernier, il affirme qu'elle coopère pleinement à l'enquête, mais qu'elle dément formellement avoir falsifié des résultats ADN et être responsable de quelconque condamnation à tort.
Alors, c'est une affaire qui remet un peu en cause hein, la croyance commune qu'on a tous, celle que l'ADN serait la preuve ultime, la preuve irréfutable de tous les dossiers criminels.
Effectivement, depuis plusieurs années, l'analyse des empreintes génétiques, ça s'est progressivement imposé dans les enquêtes criminelles. Maintenant, ça détrône quasiment les aveux comme preuve ultime. Alors évidemment, c'est pas contestable. L'ADN, c'est une avancée scientifique considérable. Ça a permis de résoudre de nombreux cold cases comme l'affaire du Grélé, celle du violeur de la Sambre, des disparus de Perpignan, le meurtre d'Élodie Cuic ou tout récemment celui de la joggeuse Caroline Marcel. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que même si l'ADN s'est devenu un des éléments phares des enquêtes criminelles, ce n'est pas une preuve ultime de culpabilité. retrouver l'ADN de quelqu'un sur une scène de crime, ça ne fait pas de cette personne l'auteur du crime.
Pourquoi ?
Eh bien parce qu'il y a deux possibilités pour qu'un ADN se retrouve à un endroit. D'abord, par contact primaire. Par exemple, je touche une table, donc avec ma main, je dépose mon ADN sur cette table. Et puis ensuite, la deuxième option, c'est par transfert. Mon voisin touche cette même table au même endroit avec sa main, eh bien il peut récupérer sur sa main mon ADN. En gros, c'est le principe de la contamination. Et des contaminations, il peut y en avoir dès le début de l'enquête, directement sur les scènes de crime ou lors des prélèvements. Et ça peut être le cas si un enquêteur ne porte pas sa blouse, son masque ou sa charlotte, ou s'il ne change pas de gants entre les prélèvements.
Absolument passionnant, merci beaucoup Manon. Maître Patrice Revieron, je rappelle que vous êtes avocat pénaliste au barreau d'Aix-en-Provence, passionné par ces questions d'ADN, et il faut dire qu'elles sont passionnantes quand on entend Manon il y a un instant. On s'est toujours dit, l'ADN c'est la preuve irréfutable, c'est la preuve incontestable. Quand on entend l'histoire d'Yvonne Mrs. Woods, bah, on se dit finalement, peut-être pas.
Effectivement pas, il y a beaucoup de données qui peuvent remettre en doute la fiabilité de l'ADN. Et puis, il y a l'interprétation qu'on fait quand on découvre un ADN. Donc, en réalité, de la conception même de la preuve ADN jusqu'à l'analyse qu'on peut en faire au final, à tous les stades, il peut y avoir des erreurs, des problèmes, des manipulations et des mauvaises interprétations.
Vous avez raison, les mots sont importants, il peut y avoir des erreurs, des manipulations. Visiblement, là, on serait plutôt dans ce cas-là avec cette femme. Vous aviez déjà entendu parler d'affaires similaires ?
Alors, on a des affaires similaires, y compris en France. Plutôt des erreurs plutôt que des manipulations. On a par exemple dans certains laboratoires en France des exemples concrets d'erreurs d'échantillons, c'est-à-dire que on a pris un échantillon d'une scène de crime et puis on s'est trompé d'analyse et on a intégré ça dans une analyse qui concernait une autre scène de crime. Donc ça, c'est documenté. Alors, on fait tout pour éviter ce genre d'erreur. Et puis après, il peut y avoir des contaminations au sein d'un même laboratoire. C'est-à-dire que quand il y a eu manipulation de profils génétiques qui sont amplifiés, donc en très forte quantité, et que on peut contaminer d'autres échantillons qui ont trait à d'autres scènes de crime. C'est déjà arrivé.
C'est un peu effrayant ce que vous nous dites, parce que cet ADN, il sert bien souvent comme preuve pour condamner une personne. Il y a combien de contrôles sur un ADN ? J'imagine que quand on est dans un dossier criminel de grande ampleur, on vérifie une fois, deux fois, trois fois. On s'assure qu'il ne puisse pas y avoir d'erreur, a priori.
Alors, en théorie, oui. Mais alors, dans l'affaire Missy Woods, c'est très intéressant parce qu'on considère qu'elle n'a pas respecté les protocoles qui sont dans le laboratoire dans lequel elle travaillait. En France, il y a des contrôles qualité, mais c'est un peu une boîte noire pour l'avocat que je suis, parce que on ne nous donne jamais les résultats des contrôles qualité et s'il y a plusieurs tests qui sont faits, on ne les produit jamais.
C'est fou parce qu'on découvre qu'il y a une forme d'opacité, de boîte noire pour reprendre votre terme. Vous avez publié il y a peu de temps un article sur l'ADN dans la revue AJ Pénal Dalloz et vous évoquez l'affaire Lukis Anderson en Californie. C'est une affaire où on s'est rendu compte justement que l'ADN pouvait être trompeur.
Oui, alors c'est très intéressant cette affaire parce qu'en réalité c'est une affaire très grave. Il y a un homejacking, donc c'est une agression à domicile d'une personne et cette personne va finir par mourir sous le coup de ses agresseurs, ils sont trois. On va rechercher de l'ADN, notamment sous les ongles de la victime. Ça se fait classiquement. S'il y a une bagarre ou un contact physique entre un agresseur et une personne, eh bien, la personne peut avoir été griffée par la victime. Et donc, on va retrouver l'ADN de Lukis Anderson, qui est un petit délinquant africain-américain, déjà connu. Et donc, son ADN est déjà sur le fichier local californien. Et quand on va interroger... L'avocate va interroger Lukis Anderson, ce dernier va lui dire « Écoutez, peut-être je l'ai fait, il se rappelle de rien en réalité. » Mais elle va faire une enquête, et dans cette enquête, elle va découvrir que le jour des faits, de façon certaine, au moment des faits, Lukis Anderson était dans le coma, était dans un coma éthylique, il était surveillé toutes les 20 minutes par une équipe médicale, donc il n'a pas pu commettre les faits, et il n'a pas pu se retrouver sur cette scène de crime. Et en réalité, on va faire une enquête, et on va découvrir que lorsqu'il a été ramassé dans la rue, dans un coma éthylique, Lukis Anderson a été pris en charge par la même équipe médicale qui, 3 heures après, va intervenir sur la scène de crime et va utiliser en réalité un petit appareil qu'on connaît tous, qui est ce qu'on appelle un oxymètre de pouls. Vous savez, c'est ce petit appareil qu'on vous met au bout du doigt pour évaluer l'oxygénation de votre sang et votre poux. Et on va s'apercevoir qu'en réalité, c'est par l'intermédiaire de cet objet que l'ADN de Lucky Sanderson va se retrouver sur une scène de crime. Mais s'il n'avait pas pu prouver qu'il était dans le coma au moment des faits, eh bien, on aurait considéré que c'était une preuve accablante contre lui.
Fascinant et effrayant, cette situation, c'était en Californie, ça pourrait être la même en France ?
Alors en France, évidemment, tout est possible. On a des cas, mais ce qui est très intéressant, c'est que on a une affaire qui, pour moi, est très très importante. C'est ce qu'on appelle un cas historique, c'est-à-dire qu'en réalité, c'est ce qui permet de démontrer que ce que l'on dit depuis très longtemps et ce que les scientifiques disent déjà depuis 1997, en réalité, c'est que les transferts secondaires peuvent poser de graves problèmes. Et par exemple, vous avez donc en Corse une habitation qui fait l'objet de ce qu'on appelle les nuits bleues. Vous savez, c'est des attentats en Corse de maisons qu'on cherche à détruire parce qu'elles appartiennent à des continentaux. Et donc, il y a 3 bouteilles de gaz qui sont amenées sur place. Et pour les positionner, on va bouger des meubles, et notamment un guéridon, un lit et une lampe de chevet. Et parce que ces objets ont été manipulés par les auteurs, eh bien, on va se pencher sur les éventuelles traces ADN que portent ces objets, et on va retrouver un ADN féminin. Alors déjà, c'est un peu étonnant, parce que on sait que les attentats en Corse sont rarement commis par des femmes, mais pourquoi pas. Et ensuite, on va s'intéresser aux bouteilles de gaz qui n'ont pas explosé, qui n'ont pas complètement fait l'objet d'un incendie, donc on peut les analyser, et on va découvrir en réalité sur ces bouteilles de gaz le même ADN que l'on va retrouver sur le guéridon et sur la lampe de chevet. Et quand on va faire plus d'investigations, on va s'apercevoir que c'est l'ADN de la propriétaire des lieux. Et là où ça devient très intéressant, c'est que la propriétaire des lieux, en réalité, n'a pas mis les pieds dans cette maison depuis plus de 6 mois. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, évidemment, cette dame, c'était sa maison, avait son ADN sur les objets du quotidien, donc le guéridon et la lampe de chevet. Ces objets ont été manipulés par les auteurs des faits, éventuellement et sans doute avec des gants, et ils ont recueilli en réalité sur leurs gants l'ADN de cette dame pour ensuite toucher des bouteilles de gaz qui n'étaient pas au domicile de cette dame. Donc on sait, c'est des bouteilles qui viennent de l'extérieur, donc qu'elle n'a jamais, elle, manipulé, et transférer l'ADN de cette dame sur ces bouteilles de gaz avec un décalage de temps de 6 mois. Et cette affaire est vraiment fascinante parce que ça démontre que un transfert primaire, donc cette dame sur le meuble, ensuite secondaire du meuble vers le gant, ensuite tertiaire du gant vers la bouteille de gaz. Et ce qui est très important, c'est que dans ce dossier, on a ce qu'on appelle des ADN qui sont uniques, c'est-à-dire que ce ne sont pas des mélanges d'ADN, et donc transfert d'ADN unique, comme si la personne avait touché ces bouteilles de gaz. Or, on sait que ça n'est pas le cas, et vraiment, c'est un dossier qui, à mon sens, est très, très important.
C'est fascinant, et tout ça n'est pas vu, hein. C'était en mars 2019. Est-ce qu'on est capable de déterminer si une trace ADN provient d'un contact primaire ou d'un transfert d'ADN ?
Non, ça c'est impossible. Alors, il y a certains experts qui vous disent que oui, on peut sans doute, lorsqu'il y a un transfert secondaire, retrouver l'ADN de la personne qui va transférer cet ADN. Par exemple, vous avez 2 personnes qui se serrent la main et ensuite une des deux personnes va toucher un objet que n'aura pas touché un des deux qui se serre la main, et on va retrouver l'ADN des 2 personnes. On se dit, voilà, le transfert implique que on retrouve de l'ADN des 2. Mais c'est pas forcément le cas. Et une expérience qui a été faite avec ça, par Cynthia Cale, notamment aux États-Unis, démontre que une personne A qui serre la main à une personne B, si la personne A touche ensuite un couteau, le manche d'un couteau, eh bien, elle peut transférer l'ADN de B uniquement, même hors la présence de l'ADN de A. Et donc, en réalité, il n'y a aucun moyen de savoir si c'est transfert primaire ou un transfert secondaire.
Absolument passionnant, et ça nous ramène à notre humilité. Finalement, la vérité dans les affaires criminelles, elle n'est peut-être jamais irréfutable, même quand il y a un ADN. Un grand merci, Maître Patrice Reviron, d'avoir été avec nous pour toutes ces explications. Merci, Manon Blanc. Affaire suivante, le podcast inédit, c'est bien sûr à retrouver sur le site de bfmtv.com et sur toutes les plateformes de streaming. À la semaine prochaine.